Tchernobyl, 26 avril 86, il y a donc 30 ans, explosé le réacteur 4 de la centrale nucléaire. Les conséquences de cette catastrophe ont été internationales et trois décennies plus tard, le bilan humain et sanitaire reste toujours compliqué à établir. Les chiffres avancés ne sont jamais les mêmes et peuvent varier dans des proportions très importantes selon les sources. Avec mes invités, nous allons essayer de comprendre la raison de la divergence des récits et pourquoi on peut parler d'un déni autour de la contamination radioactive. Vos messages et vos questions dès maintenant. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. À l'une de la science aujourd'hui, l'une des migrations les plus spectaculaires du monde vivant qui vient d'être comprise, Axel Villard. Bonjour.
Bonjour Mathieu, on va parler du périple du petit papillon monarque qui parcourt chaque année 4000 km entre le Canada et le Mexique. Comment fait-il pour garder le cap et retrouver ses forêts ancestrales? La réponse vient tout juste de paraître.
Et c'est Céline Hila qui réalise l'émission aujourd'hui avec un dossier préparé par Emmanuel Fournier.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Tchernobyl, 30 ans après, dossier donc dans quelques minutes avec mes invités, la sociologue Annie Thébault-Mauny et Yves Lenoir, le président de l'association Enfants de Tchernobyl Bélarus. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue. Yves Lenoir, dans votre livre, La comédie atomique publiée aux éditions de la Découverte, vous dénoncez le déni des effets de la radioactivité au sein même de l'ONU. Pourquoi les vérités officielles minimisent systématiquement les conséquences de Tchernobyl?
Grosso modo, les organismes de l'ONU chargés de la radioprotection ont pris fait et cause pour les usages des radioéléments et des rayonnements en médecine et pour le développement de l'énergie atomique. C'est une affaire historique.
Annie Thébault-Mauny, les conséquences sanitaires donc de Tchernobyl ont largement dépassé les frontières de l'Ukraine, on le sait, et la radioactivité est toujours présente un peu partout en Europe, en France aussi en particulier.
Il faut savoir que pratiquement 57 ou 60% des retombées de Tchernobyl l'ont été en dehors des pays limitrophes, donc chez nous et dans les autres pays européens. Et un seul indicateur permet d'estimer qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de dégâts dans un pays comme la France, c'est celui des atteintes par la thyroïde, qui ont explosé depuis 86.
Voilà, conséquences qui se font donc toujours sentir 30 ans après. On va se retrouver dans quelques minutes pour comprendre justement ce qu'il en est 30 ans plus tard avec les messages des auditeurs. 4000 km entre le Canada et le Mexique pour un papillon, eh bien c'est très long, vous vous en doutez. La science vient de comprendre comment le papillon monarque faisait pour garder le cap pendant sa grande migration annuelle. Et c'est aujourd'hui à la une de la science avec cette étude publiée dans la revue Cell. Bonjour Sonia Charret.
Bonjour.
Vous êtes entomologiste, responsable du programme Monarque de l'insectarium de Montréal, où vous êtes actuellement. Dites-nous pourquoi le monarque d'Amérique du Nord se donne autant de mal pour rejoindre chaque année les grandes forêts mexicaines?
Eh bien, parce que c'est la façon qu'il a choisi de passer l'hiver ici ou dans le nord de l'Amérique du Nord. Les hivers sont très rigoureux, sont très difficiles, et chaque espèce doit trouver une façon de passer à travers ces mois. Certains restent, développent des antigels, se cachent, il y a différentes stratégies. Mais le monarque, qui est d'origine tropicale, lui, retourne vers les territoires du sud pour trouver des conditions qui lui permettent de tomber en diapause et passer les mois les plus difficiles.
Ça fait longtemps qu'on cherche à savoir comment ce papillon fait pour garder le bon cap.
Ah oui, en fait, depuis sa découverte, plus d'une trentaine d'années, pratiquement une quarantaine d'années, on sait que les papillons monarques quittent le nord de l'Amérique pour se diriger à quelque part. On ne savait pas où, et c'est en 1972, qu'on a découvert qu'ils se dirigeaient vers les sommets de montagne du Mexique. Et depuis ce temps, bien, on cherche à savoir comment il fait, par quel couloir migratoire il passe pour trouver son chemin vers ses forêts. Il s'agit de quelques hectares à peine. Alors, les milliers, milliers, millions d'hectares de l'Amérique du Nord et qui sont couverts par cette population de monarques vont se concentrer sur quelques hectares à peine. Alors, voilà de nombreuses années qu'on cherche à savoir comment.
Mais alors, s'il est originaire justement du secteur tropical, Sonia Charest, pourquoi est-ce qu'il est allé au Canada? Qu'est-ce qu'il est allé faire chez vous alors exactement?
C'est très beau chez nous, vous savez. Non, ouais. C'est pas pour ça. Il a remonté vers le nord parce qu'il est à la suite de sa plante hôte. Les monarques doivent pondre absolument sur un groupe de plantes qu'on appelle les asclépiades. Et les asclépiades sont, dans les régions tempérées, des plantes qui meurent à l'automne et renaissent repousse au printemps. Donc, pendant la période froide, il n'y a pas d'asclépiade. Le monarque quitte, mais lorsque l'asclépiade recommence à sortir de terre au printemps, le monarque va suivre cette plante-là en remontant, en suivant le printemps qui gagne le nord. C'est comme ça qu'il s'est rendu jusqu'à la limite nord de la distribution de sa plante hôte.
Alors comment fait-il, c'est le sujet de cette publication, pour utiliser son système de guidage interne?
Alors, il y a quand même plusieurs années qu'on sait que le monarque utilise divers éléments de la nature pour se diriger. On sait déjà qu'il va se fier sur des éléments majeurs du paysage, comme par exemple les océans ou les chaînes de montagnes principales, qui sont les Appalaches à l'est et les Rocheuses à l'ouest. Mais on a découvert il y a quelques années qu'il y avait aussi une boussole intégrée dans le monarque. En fait, c'est un système assez simple où les yeux vont pouvoir percevoir le soleil et percevoir le soleil et se guider vers le sud-ouest en fonction de la position du soleil. Mais comme on le sait, le soleil bouge dans le ciel. En fait, c'est nous qui bougeons, mais il a l'apparence de bouger. Pour pouvoir se fier à ça, il faut pouvoir calibrer notre petite boussole en fonction de l'heure du jour. Et cette horloge, qu'on appelle une horloge circadienne, se situe dans les antennes du monarque. Alors ça, on savait déjà cette partie-là depuis quelques années. Ce que le dernier papier qui vient de sortir nous apprend, c'est un peu comment les signaux qui passent à travers les yeux et à travers les antennes sont encodés pour se rendre jusqu'au cerveau et ainsi toujours redresser la course du monarque qui se dirige vers le sud-ouest pour rejoindre le Mexique. Donc, c'était vraiment le but de cette recherche-là, d'essayer de comprendre comment c'était encodé, mais plus encore aussi de reproduire ce modèle-là de façon artificielle. Donc, c'est pour ça qu'il y avait, en plus des biologistes et des spécialistes du monarque, il y avait sur cette étude principalement un mathématicien et un ingénieur, en fait, un ingénieur mathématicien qui a pu reproduire ce modèle-là et le modèle a été assez juste pour pouvoir donner exactement les mêmes résultats que ce que donne la boussole du monarque.
On peut trouver des applications à la réutilisation de cette boussole?
Probablement que oui. On n'en est pas là encore, mais il y a plusieurs recherches, vous savez, qui... maintenant, on est très, très alerte à essayer de voir quelles découvertes peuvent servir dans un domaine qu'on appelle le biomimétisme. Et ça, ben, finalement, c'est imiter la nature pour résoudre des problématiques humaines. Et cette recherche-là aurait des avenues pour essayer de développer des mécanismes, des dispositifs de direction en navigation, par exemple, pour les engins qui n'ont pas accès à des satellites, donc aux signaux satellitaires qui peuvent nourrir un GPS. Alors, quand on n'a pas ça, il faut qu'on puisse avoir recours à d'autres méthodes pour pouvoir se localiser et se diriger. Donc, dans ce domaine-là, il pourrait y avoir des applications.
Sonia Charest, ce qui est absolument incroyable, c'est que ce papillon qui part du Canada pour aller se réchauffer au Mexique, puis revient ensuite au Canada, c'est pas le même. Ça se fait sur plusieurs générations. Donc, comment est-ce qu'il y a cette mémoire aussi de la route et du chemin retour?
Le monarque est un insecte qui est plein de surprises. En fait, il nous étonne constamment. Tout d'abord, je dois préciser que malgré les apparences, parce que nous, les Québécois, quand on va au Mexique, on s'en va se réchauffer sur les plages, mais le monarque, lui, ne se dirige pas vers ces zones chaudes du Mexique. Il va se diriger vers le haut des montagnes, où il va retrouver des... un microclimat. Alors, il fait très, très froid dans ces montagnes-là, quelquefois tout près du point de congélation. Mais lorsqu'il est bien emmitouflé au sein des sapins oyamel, il se retrouve dans un microclimat où il est tout juste en haut du point de congélation. Il est protégé des vents, de l'humidité, des intempéries. Et il peut diminuer son métabolisme suffisamment pour ne pas utiliser sa réserve de graisse, sa réserve d'énergie, ou en tout cas au minimum, puisqu'il ne peut pas se nourrir et refaire cette réserve-là au Mexique, et ainsi passer plusieurs mois, du mois de novembre jusqu'au mois de mars environ, en état de diapause. Donc, on sait que tout est inscrit génétiquement. Hein, dans le code génétique du monarque, il y a cette trajectoire-là qui lui permet de retrouver le nord et ensuite de retrouver le sud. Mais vous avez raison, c'est pas la même génération. Et c'est ce qui est le plus étonnant. Le monarque qui va quitter le Mexique au mois de mars va remonter un petit peu plus vers le nord du Mexique, vers le sud des États-Unis. Et là, il va retrouver de l'asclépiade. Il va pouvoir pondre. Et la prochaine génération va se développer sur les asclépiades jusqu'à donner une future génération d'adultes qui, elle, va remonter vers le nord. Et ça prend comme ça le bond de 2 ou 3 générations pour gagner le sud du Canada. Où, à ce moment-là, il va vraiment tomber sur ses aires de reproduction principales. Et là, on va avoir 2 ou 3 autres générations de monarques dans ces zones-là. Et c'est celle de la fin de l'été, celle du mois de septembre, qui sera différente des autres. On l'appelle la génération Mathusalem, parce que celle-là va vivre beaucoup plus longtemps. Et elle a la différence de ne pas avoir développé son système reproducteur pour conserver le maximum d'énergie pour faire cette gigantesque migration de 4000 kilomètres.
Incroyable, monarque. Merci infiniment, Sonia Charest, pour vos explications. Donc, depuis Montréal, depuis l'Insectarium, justement, vous êtes responsable de ce programme Monarque. Et on en sait beaucoup plus grâce à cette publication, Axel Villard.
Merci, Mathieu.
Et à demain pour une nouvelle Une de la Science. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le véganisme pourrait peut-être sauver le monde. Comment produire en tout cas suffisamment de nourriture pour nourrir une population toujours croissante dans le futur, tout en laissant un peu de place à la nature? Eh bien, pour le savoir, des chercheurs autrichiens ont mené des centaines de simulations de production alimentaire et selon leurs résultats, le déterminant principal de ce défi sera le régime alimentaire de notre planète. Alors que seulement 15% des scénarios basés sur un régime classique à base de viande sont jugés réalisables d'ici 2050, 100% de ceux basés cette fois-ci exclusivement sur la nourriture végétale sont envisageables et ce, sans raser la moindre parcelle de forêt supplémentaire. Les sèche-mains à lames d'air pulsé apparus depuis quelques années dans les lieux publics sont des nids à microbes. Eh bien, vous aviez peut-être déjà pressenti ce résultat, obtenu par des chercheurs britanniques en observant certains d'entre eux. Le résultat des tests pratiqués en laboratoire, eh bien, est sans appel. La nouvelle génération de sèche-mains projette dans l'air 20 fois plus de germes que ses prédécesseurs moins puissants et 190 fois plus que les serviettes en papier. Problème supplémentaire souligné par l'étude, la projection est maximale au niveau du visage des jeunes enfants. Et puis, la plus vieille trace de la présence des singes en Amérique du Nord fait un bond de plusieurs millions d'années en arrière. Une dent de primate fossilisée trouvée sur les rives du canal de Panama suggère que nos très lointains ancêtres ont atteint le nord de l'Amérique il y a environ 21 millions d'années. Une découverte qui bouleverse complètement les théories actuelles selon lesquelles le genre primate aurait traversé l'Atlantique sur des radeaux de végétation flottante il y a seulement 3,5 millions d'années. Une dent qui sème en ce moment même la discorde parmi les spécialistes et qui rebat toutes les cartes de l'histoire simiesque des Amériques. Allez, Tchernobyl, 30 ans après, les conséquences des radiations, le thème du dossier avec mes invités. Tous vos messages dès maintenant, franceinter.fr.
Quand on me dit que je suis moche, je me marre doucement pour pas te réveiller. Tu es ma petite Marilyn, moi je suis ton Miller, hein. Non, pas Arthur, plutôt Henri, spécialiste de hardcore. La beauté cachée, délai, délai, on se voit sans délai, délai. La beauté cachée, délai, délai, on se voit sans délai, délai. Même musique, même reggae pour mon chien, que tout le monde trouvait si vilain. Ouf, toutou, c'est moi qui bois, c'est lui qui mord d'une cirrhose. Te déteste par osmose, tellement qu'il buvait mes paroles. La beauté cachée, délai, délai, se voit sans délai, délai. La beauté cachée, délai, délai, se voit sans délai, délai. Enfin, faut faire avec ce qu'on a. La sale gueule, nous on n'est plus rien. D'ailleurs, nous les affreux, je suis sûr que Dieu nous accorde un peu de sa miséricorde, car la beauté caché, délai, délai, se voit sans délai, délai. La beauté cachée, délai, délai, se voit sans délai, délai. Eh oui.
Délai avec Gainsbourg à l'instant sur France Inter.
Bonjour à tous. En l'absence d'informations précises de la part des autorités soviétiques, il est bien difficile ce matin de se faire une idée très exacte des conséquences de la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Une chose est sûre en tout cas, c'est le plus grave accident depuis que des centrales existent dans le monde.
La voix de Noël Mamère, le 30 avril 86, 30 ans après Tchernobyl. Où en sommes-nous des conséquences sanitaires de la catastrophe? Pour en parler donc, Annité Beaumoni et Yves Lenoir. Annité Beaumoni, vous êtes sociologue et directrice de recherche honoraire à l'INSERM, spécialiste de la santé au travail. Et vous présidez l'association Henri Pezra, Santé, Travail, Environnement. Vous avez publié en 2014 La science asservie, santé publique, les collusions mortifères entre industriels et chercheurs. C'est aux éditions de La Découverte. Et puis Yves Lenoir, vous êtes ingénieur de formation et président aujourd'hui de l'association Enfants de Tchernobyl Bélarus. C'est une association créée en 2001 pour financer un organisme indépendant de protection radiologique du Bélarus, l'Institut Belrad, qui est basé à Minsk. Et vous avez publié également aux éditions de La Découverte La comédie atomique, l'histoire occultée des dangers des radiations. Les auditeurs nous rejoignent donc avec les messages et les questions sur le site de la Tête au Carré. Yves Lenoir, on peut rappeler peut-être rapidement les faits qui se sont déroulés le 26 avril 86, même s'ils sont bien connus du public maintenant. Quatrième réaction donc de la centrale de Tchernobyl qui explose et qui entraîne donc un phénomène redouté qu'on appelle excursion nucléaire, c'est ça?
Oui, les barres de contrôle avaient été retirées, la manip était mal engagée et le réacteur a explosé et il a donc dispersé dans l'environnement au moins la moitié du cœur.
Donc il y a eu un enchaînement d'éléments après un incendie dantesque, hein, vous le rappelez, hein, qui a mis 10 jours avant d'être éteint.
Oui, il a fallu 10 jours et on peut dire que grosso modo en moyenne chaque heure, les produits à vie moyenne, les produits de radioactifs à vie moyenne et longue éjectés par le réacteur représentaient l'équivalent d'une explosion atomique.
Ouais. Annité Beaumoni, vous vous souvenez évidemment, comme nous tous, hein, de cet événement. Comment vous avez vécu ça à l'époque? Qu'est-ce que vous vous êtes dit?
Alors, c'était 1986, mais quelques années avant, j'étais à New York lorsqu'il y a eu l'explosion de Three Mile Island. Où l'information sur la catastrophe a mis 48 heures avant d'être dévoilée à la population qui était présente.
Oui.
Donc, et quand c'est arrivé en 86, j'avais des contacts avec des syndicalistes qui étaient à Caen et qui ont cru que c'était La Hague parce que tous les appareils de mesure du département du CEA qui est à Caen signalait quelque chose de grave.
Oui. Et c'était donc en l'occurrence Tchernobyl et le nuage radioactif qui était enregistré.
Absolument, c'était le nuage de Tchernobyl qui commençait qui avait survolé la France puisque c'était au niveau de la Normandie.
Ouais. Yves Lenoir, qu'est-ce qui s'est passé immédiatement après dans la zone de Tchernobyl? Il y a la ville voisine de Pripyat, c'est ça?
Avec Pripyat,
45 000 habitants.
Oui.
Entièrement évacués donc à ce moment-là?
Alors ils ont été évacués 36 heures plus tard. Les archives du KGB déclassifiées en 2001, du KGB d'Ukraine, l'équipe qui surveillait Tchernobyl a envoyé un certain nombre de rapports, une centaine, oui. Et il s'y trouve les chiffres des personnes, des habitants de Tchernobyl qui ont été atteints par le mal aigu des rayons, c'est-à-dire qu'on a dû être hospitalisé 135 personnes, dont 37 enfants.
Mmh.
Par ailleurs, un biologiste sur place m'a dit qu'en 1990 que plus de 1000 enfants avaient reçu une dose de 1 sievert, c'est-à-dire le sixième de la dose mortelle. On voit donc que la population n'a pas été protégée. Les conditions étaient celles d'une bataille atomique.
Oui. Alors pourtant, les enfants, je crois, ont reçu quand même des pastilles d'iode.
Trop tard.
Mais trop tard, hein, c'est
oui,
ça. C'est 10 heures après l'explosion.
12 heures.
C'est beaucoup trop tard dans
ah
ces
oui,
cas-là.
Ça ne sert plus à rien.
Ça ne sert plus à rien, oui. Et évidemment, ce sont les civils présents et qui étaient totalement inconscients du danger, qui étaient première ligne, évidemment.
Ah oui, oui, ils étaient dans le champ de bataille atomique. Le nuage, d'ailleurs, le vent soufflait de la centrale vers la ville. Mm-hmm. Et donc, pendant 36 heures, il faisait très beau, hein, ils dormaient la fenêtre ouverte quand l'explosion a eu lieu. Et pendant 36 heures, ils ont été exposés sans protection jusqu'au moment où les autorités soviétiques ont remarqué qu'avec les mesures qu'ils prenaient, qu'on allait atteindre le niveau limite d'engagement des troupes dans une bataille atomique, un sievert. Mm. Et ils ont évacué.
Annie Bomeni, ceux qu'on appelle les liquidateurs, hein, eh bien ce sont les personnes qui travaillent aussi sur place. Hein.
Alors les liquidateurs, c'est les travailleurs qui ont été désignés volontaires, je dirais.
Pour partir.
Pour partir et qui ont été recrutés. Il faut savoir qu'il y en a eu entre 800 000 et 1 million. Soldats, pompiers et même certainement des volontaires, entre guillemets, qui sont partis pour notamment empêcher... recouvrir le toit du réacteur avec du plomb pour essayer de circonscrire...
Colmater déjà dans l'urgence.
Ouais. Et puis creuser ce fameux tunnel, mais je laisse Yves en parler.
Ouais, 800 000 à 1 million de personnes quand même. Hein.
Oui, ce qu'il faut quand même mentionner, c'est que les premiers liquidateurs ont été les employés de la centrale, qui ont dû rester, pour certains, plus de 2 jours sur place, dans cette espèce d'enfer, et plus de 125 d'entre eux ont été atteints du mal aigu des rayons dès les premières semaines et ont dû être hospitalisés soit à Kiev, l'hôpital 26, soit à Kourtchatov, l'hôpital numéro 6 à Moscou, soit même à l'Institut sanitaire des radiations à Leningrad. C'était véritablement les plus exposés, hein, puisqu'ils
Bien
étaient
sûr.
Là au début.
Absolument. 800 000 à 1 million de personnes. Oui. Où sont ces hommes aujourd'hui?
Alors, une grande proportion est décédée. Pour les chiffres qu'on a pour l'Ukraine, c'est autour de, en 2005, c'était autour de 40 à 45%. Et les survivants étaient pratiquement tous, disons à 95%, atteints de diverses infirmités liées à l'exposition aux radiations.
Donc, ils ne sont absolument pas pris en compte dans les bilans sanitaires et humains.
Non.
C'est incroyable.
Non, alors la raison se comprend. Les relations dose-effet officielles dans les papiers, dans les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique ou dans les papiers du comité scientifique des Nations unies sur les effets des radiations, les seules conséquences qu'on attribue aux radiations sont les cancers et les mutations. Or, les cancers, ils arrivent tard. Toutes les autres maladies, que ce soit les infarctus, quand on voit dans quel état sont les liquidateurs, on voit bien qu'il y a une kyrielle de maladies qui est liée à l'affaiblissement de l'organisme par les radiations, en particulier la baisse des résistances immunitaires.
Mais comment on peut ne pas tenir compte justement de ces décès, Annie Bomeni, des centaines de milliers de personnes directement touchées par les radiations?
Je dirais qu'il y a de grandes séries d'explications. La première, c'est que les travailleurs sont généralement invisibles. Les travailleurs les liquidateurs de Tchernobyl ont été complètement passés sous silence, même au niveau de ce qu'on entendait au moment même. Il a fallu longtemps pour avoir l'ampleur du nombre de ceux qui étaient intervenus. La deuxième série de raisons, c'est la résistance des autorités nucléaires, je dirais, militaires, civils et privés, à reconnaître quelque chose qu'on sait depuis 100 ans. C'est-à-dire, on sait
les effets des radiations, tout
simplement. Les effets des radiations et l'absence totale de doses en dessous de laquelle il n'y aurait aucun effet.
Et ça, justement, Yves Lenoir, c'est le cœur de votre livre. 30 ans plus tard, Tchernobyl, au fond, ce que vous nous racontez, c'est que c'est l'histoire de deux récits absolument inconciliables autour des séquelles de la catastrophe, avec les controverses entre les tenants des deux bilans. Parce qu'il y a deux bilans, on pourrait dire. Un bilan caché, et puis un bilan peut-être plus réaliste, qui n'a cessé donc d'être critiqué depuis 1990. Donc là, on est quoi face à un véritable dialogue de sourds, au fond hein.
Oui, parce que le bilan, entre guillemets, officiel, a été adopté par l'Assemblée générale de l'ONU. C'est-à-dire que c'est le bilan d'un organisme ad hoc qui s'appelle le Tchernobyl Forum, qui a en 2006 et exprimé de façon formelle dans l'introduction du rapport, c'est le bilan définitif. Mmh. C'est-à-dire que 20 ans après Tchernobyl, on estime que toutes les conséquences sont connues scientifiquement, alors que 70 ans après Hiroshima et Nagasaki, on continue de chercher. Ce qui prouve bien qu'il y a quelque part un biais dans l'appréciation des problèmes.
Ouais, et justement, par rapport à Tchernobyl, le même mécanisme s'est enclenché avec Fukushima ?
Oui, tout de suite. Là, à Tchernobyl, ils ont perdu 3 ans parce qu'ils s'attendaient pas aux conséquences. Ouais. Et au bout de 3 ans, ils se sont dit, bon, la thyroïde, on peut pas la nier, on va mettre tous les projecteurs sur la thyroïde, puis le reste, on le mettra sous le tapis. Et à Fukushima, ils étaient tellement bien prêts que quelques semaines après l'accident, il y a eu plusieurs déclarations, plusieurs communiqués, dont un de l'OMS qui disait que la pire des conséquences qu'on avait à attendre de cet accident, ce sont les maladies qui seraient dues à la radiophobie, c'est-à-dire au stress. Ouais. Dans lesquels vivraient les gens, se sachant habiter des territoires contaminés ou avoir subi le passage du nuage radioactif.
C'est ce qui vous a décidé aussi à écrire ce livre ?
Absolument. Là, je me suis dit, je sais beaucoup de choses, je les ai toujours gardées pour moi, mais mon expérience et surtout ma pratique de ces institutions me demandent de témoigner.
Eh bien, vous allez justement le faire sur cette antenne dans quelques minutes avec Annie Thébaumenier et bien sûr les questions et messages des auditeurs. Beach Tree avec Falls à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
La comédie atomique, l'histoire occultée des dangers des radiations à l'occasion du 30e anniversaire de l'accident de Tchernobyl. Yves Lenoir, vous publiez ce livre aux éditions de La Découverte. Et puis avec nous également Annie Thébaumenier, sociologue. Vous aviez publié il y a 2 ans La science asservie aux éditions également de La Découverte. Vous êtes allé plusieurs fois sur le terrain, Tchernobyl, Yves
oui,
Lenoir.
Oui,
la
oui.
Première fois, c'était quand exactement ?
1988. Alors là, sur le site lui-même.
2 ans après.
Oui, c'est cela.
Alors, 2 ans après, on peut aller se balader comme ça sur le site de Tchernobyl sans aucun risque. Enfin, vous n'avez pas eu peur pour votre propre santé ?
Non, quand on comprend les choses, on sait qu'on sera irradié par la radiation ambiante.
Ouais.
Et si on évite de se rouler dans la terre contaminée, et si on nettoie ses chaussures, ses semelles dans les pédiluves avant de rentrer dans un bâtiment, dans un véhicule qui lui est propre, le risque de contamination est nul.
Donc l'air n'est plus contaminé,
oui,
c'est le sol.
Les arroseuses passaient en permanence et tout le périmètre était arrosé en permanence pour qu'il n'y ait pas de poussière.
Oui. 30 ans plus tard, qu'est-ce qu'il en est du césium radioactif dispersé justement dans l'environnement?
Alors, vous faites bien de poser la question. 30 ans plus tard, si vous allez au Bélarus avec un compteur de radiation, presque partout, vous verrez un niveau redevenu normal. Pourquoi? Parce que le césium s'est infiltré et son rayonnement ne sort pas du sol. Mais les micro-organismes du sol, la microfaune, les racines, le captent, le transmettent à la chaîne alimentaire. Et on observe, d'ailleurs je peux le dire là rapidement, le record de contamination des champignons mesuré par Belrad. C'est 2012, 268 000 becquerels par kilo, c'est-à-dire que c'est un déchet radioactif qui, chez nous, doit être stocké dans une alvéole bétonnée.
Oui.
Et là-bas, on fait la soupe avec.
Oui.
Donc il faut bien voir le risque qui est diffus, mais qui peut être extrêmement élevé.
Donc Anity Bomini, c'est un véritable trompe-l'œil, puisque tout se passe, le poison est bien là, en fait, sous nos pieds. Hein.
Ah ben le poison est là, il est, comme vient de le dire Yves, complètement... enfoui, mais il repasse dans la chaîne alimentaire. Et le bilan qui est fait, qui a été fait au fil du temps par les médecins, chercheurs, biologistes biélorusses, russes et ukrainiens, montre qu'on est face à une catastrophe sanitaire sans précédent, avec des atteintes. Alors, il y a les atteintes officielles, entre guillemets, mais qui sont très mal mesurées au niveau officiel, mais qui sont catastrophiques, c'est-à-dire les atteintes de la thyroïde, les cancers, mais vous avez tout un ensemble d'atteintes sanguines et cardiaques. Vous avez également les problèmes justement génétiques avec la transmission de mutations d'une génération à l'autre, et ça on le sait maintenant.
Ouais.
Et puis vous avez toutes les atteintes au système immunitaire. Donc les chercheurs de ces pays n'avaient pas bénéficié de traduction en anglais jusqu'à 2009.
Ouais.
On avait des éléments par des chercheurs, par exemple Roger et Bella Belbeoc, dès 91, ont alerté sur tous ces aspects-là avec un livre qui s'appelle « Tchernobyl, une catastrophe », avant même qu'on sache à quel point les autorités allaient nous mentir sur les conséquences de Tchernobyl. Et ensuite, je dirais que c'est passé par des réseaux de chercheurs non alignés, indépendants du nucléaire, qui ont insisté pour faire sortir cette information. Donc l'Académie des sciences de New York a fait une première traduction en 2009. Le Centre d'études des rayonnements ionisants européens a fait également un très gros travail de traduction en anglais des travaux de nos collègues biélorusses, ukrainiens et russes. Et puis, une association qui lutte pour l'indépendance de l'OMS depuis plusieurs décennies déjà maintenant, par rapport à l'AIEA, donc l'Agence internationale pour l'énergie atomique, cette association a fait une traduction et une actualisation des données en français en 2015.
Ouais. Donc ce sont ces forces-là qui s'opposent, Yves Lenoir, les institutions officielles, la vérité officielle, et puis de l'autre, donc avec des chiffres totalement différents et beaucoup plus importants, ces scientifiques du monde entier non inféodés.
Oui, alors ce qu'il faut bien dire, c'est que les publications donc de scientifiques non intégrés, non inféodés, dont nous parlons, ont été revus par des comités de lecture et sont publiés dans des revues scientifiques
de haut
niveau.
Oui, c'est pas des chiffres comme ça,
c'est pas des chiffres en l'air par des témoins pas crédibles.
On va écouter l'extrait d'un documentaire qui s'appelle Le Sacrifice, que vous citez d'ailleurs dans votre ouvrage, au sujet des enfants de Tchernobyl.
Nesterenko est le seul scientifique qui mesure systématiquement la radioactivité artificielle interne. Ces mesures ont révélé des contaminations 8 fois plus élevées que celles que publie le ministère de la Santé biélorusse, qui a tenté de le bloquer. L'activité de Nesterenko étant légale, il n'a pas réussi à le faire fuir. D'après le professeur Bandajewski, au-delà de 50 becquerels par kilo de poids du corps, des lésions irréversibles apparaissent dans les organes vitaux. En 9 ans de recherche dans les territoires contaminés par la catastrophe de Tchernobyl, le professeur Yuri Bandajewski, anatomopathologiste, a découvert que le césium-137, incorporé à faible dose avec les aliments contaminés, détruit progressivement les organes vitaux qu'il accumule à des concentrations inégales et bien plus élevées que la moyenne corporelle. Avec sa femme Galina, pédiatre et cardiologue, Bandajewski a décrit la cardiomyopathie du césium, une nouvelle pathologie qui, de l'avis de certains scientifiques, portera son nom. Après avoir publié ses découvertes et dénoncé la politique de non-intervention du gouvernement, Bandarevski a été emprisonné pour corruption présumée, puis assigné à résidence en attente de son procès.
Voilà Yves Lenoir, un commentaire sur cet extrait du sacrifice autour des enfants en particulier, mais ce n'est pas les seuls, hélas, à avoir été touchés, bien sûr.
Oui, ces observations que Bandarevski a faites à partir de 1990 avaient en fait été déjà explorées par un autre biologiste, mais alors pour le cas, le coup, non pas un anatomopathologiste, mais un radiobiologiste, Evgeny Kanepla, que j'ai rencontré en 90 à Minsk, et qui m'a montré effectivement des graphiques où on voyait que la concentration du césium dans les organes qui travaillent beaucoup était plus élevée que dans la moyenne du corps. Et Bandarevski a repris ses travaux, les a approfondis, et sa femme, ayant repéré qu'il y avait beaucoup d'enfants qui avaient des problèmes cardiaques, a suspecté le césium, et Belrad a fait les mesures, vous voyez, tout se tient, Belrad a fait les mesures de contamination des enfants, et le lien a pu être établi entre contamination corporelle et atteinte cardiaque.
Le plus troublant, ce que vous écrivez, c'est qu'on constate que les enfants nés 15 ans après Tchernobyl sont même encore plus malades que la génération qui les a précédés.
Oui, en moyenne. C'est quelque chose qui peut surprendre. On aurait dû s'y attendre du fait qu'une généticienne de Minsk et son équipe, Rosa Goncharova de l'Académie des sciences de Minsk, a testé l'évolution de la santé de petits rongeurs, des campagnols roussâtres, sur 22 générations. Dans toutes les conditions, forte irradiation, faible irradiation, on retire les générations futures de la zone irradiée, et on constate que ce qu'on appelle l'instabilité génomique, c'est-à-dire les erreurs de réplication dans l'agencement des chromosomes quand une cellule se duplique, augmente de génération en génération, à partir du moment où il y a eu une génération antérieure qui a été atteinte. Et on suspecte que c'est ce processus chez les hommes qui fait que les enfants nés après Tchernobyl sont plus malades.
Annie Tebomoni, du côté des ouvriers aussi, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Parce que là, on parle des enfants, on a constaté les mêmes effets aussi chez les adultes.
Alors,
et chez les travailleurs du nucléaire.
Chez les travailleurs du nucléaire, il faut savoir que toute la maintenance des installations nucléaires en France, centrales et autres types d'installations, est faite dans le cadre de travaux sous-traités à des travailleurs qui sont la plupart du temps invisibles. Donc, les données concernant les travailleurs n'ont porté que sur la population statutaire EDF, CEA, Areva, c'est-à-dire ceux qui subissent... qui supportent 20%, à peu près 20% de l'exposition.
Là, vous parlez pour la France.
Pour la France.
On ne parle pas de Tchernobyl.
Non, on
ne
parle
d'accord.
pas de Tchernobyl. Mais pour la France et de façon, enfin, pour les pays ayant une industrie nucléaire civile, à l'exclusion de la zone quand même russe, plutôt les pays occidentaux, il y a une étude dont les résultats sont sortis en 2005 et qui montre que donc qui porte uniquement sur la mortalité par cancer, qui n'est pas le meilleur des indicateurs, mais quand même, qui montre qu'avec une dose sur l'ensemble de la carrière, c'est-à-dire 20 à 30 ans, qui est inférieure à la dose réglementaire annuelle, c'est-à-dire 20 millisieverts année. Donc, on a une très très faible dose, on a 3 à 4 fois plus de cancer que ce qui était attendu. Donc, rien que pour les cancers, qui est le seul indicateur officiellement admis par les autorités sanitaires, on a une situation catastrophique.
Voilà. Et pour la France, on n'est pas dans le cadre d'une catastrophe nucléaire.
Et pour
c'est
la
simplement
France,
le fait de travailler dans ce contexte particulier.
Absolument. Ouais. Et on voit actuellement de nombreux cas de cancers chez des travailleurs. Là, un travailleur atteint d'un cancer bronchopulmonaire a été reconnu en maladie professionnelle il y a quelques années. Il est décédé. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'employeur.
Première décision judiciaire.
Première décision judiciaire dans le domaine.
Yves Lenoir, pour les travailleurs par contre, là, de Tchernobyl, vraiment, qu'est-ce qu'on constate sur l'évolution génération après génération?
Tout à l'heure, donc, j'ai donné des chiffres un peu généraux. Dans le livre dont Annie a parlé, on trouve un tableau qui concerne 1000 décès. Donc, sur une corde de 800 000, ça peut paraître faible. Mais ce qui est très intéressant, c'est l'âge moyen de décès, 45 ans.
Ouais.
Et on retrouve l'âge moyen de décès des équipages des tonniers japonais qui avaient subi les retombées des bombages américaines. Ouais. Ils ont eu leur espérance de vie réduite de 20 ou 30 ans.
Yves Lenoir, quel est le chiffre officiel du nombre de morts de Tchernobyl aujourd'hui?
Alors, il y en a 36 ou 38 qui sont reconnus absolument.
Oui. On en ajoute 36 12. Morts.
Oui, ça, c'est les premiers.
Vous entendez bien.
36. Et on en ajoute 12 parce qu'ils sont morts très vite. Ouais. Ils sont morts en quelques semaines. Ils étaient très irradiés. Et on en ajoute 12 dont le rapport dit, dont il n'est pas forcément établi que ce soit les radiations qui les ont tués. Et ça s'arrête là.
À peine 50 personnes seraient mortes de Tchernobyl.
Alors ça, c'est pour les morts d'exposition. Puis vous avez 14 des enfants qui ont eu un cancer de la thyroïde sur 4000 qui sont décédés. Cela, effectivement, on ne peut pas les nier. Pour le reste, non, circuler, il n'y a rien à voir.
Bien. Et pour les autres chiffres, alors?
Les autres chiffres, là, c'est la bouteille à l'encre, parce que la somme que font les auteurs Yablokov et Nesterenko dans le livre dont a parlé Annie, ça atteint plus de 900 000. Mais tant qu'il n'y a pas eu une véritable confrontation équilibrée et scientifique, on peut penser que la réalité se trouve plutôt près des 900 000 que des 50. Voilà.
Alors moi, je voudrais revenir là-dessus, parce que...
L'histoire commençait par la fin. Là où il meurt, là où il s'aime, là où il trouve le parchemin. Non, cette histoire sera plutôt évasive. Comme les fins qu'on n'aime pas, qu'on ne comprend pas.
Calvaire avec Dessy sur France Inter. Tchernobyl, 30 ans après, et la nature. Qu'en est-il sur place? Extrait d'un documentaire de Luc Riolon, Une histoire naturelle.
Lorsque l'accident de Tchernobyl est arrivé, la nature n'était pas du tout prête à affronter une aussi brutale augmentation de la radioactivité.
Cette zone se trouve à 2 km de la centrale nucléaire. Ici, la radioactivité est 1000 fois supérieure à la normale. Ah, il y a quelque chose. C'est un mulot mâle. Il vit ici dans une zone très radioactive. Il est certainement très contaminé. Mais pourtant, il est dans un état étonnant. Il est très vif et très fort. Je le sens dans mes doigts. Il est prêt à se battre pour sa vie. Il se défend et il mord cette créature féroce qui l'attaque, l'homme.
Plus de deux décennies après la catastrophe, la nature semble de manière surprenante avoir repris tous ses droits à Tchernobyl. La zone interdite abrite de nombreuses espèces d'animaux sauvages, dont certaines totalement absentes avant l'accident. Plusieurs ours s'y sont installés. Il est très fréquent de voir des sangliers, des biches, des cerfs ou des chevreuils. les oiseaux nichent même sur le sarcophage de béton qui recouvre le réacteur défunt à des niveaux de radioactivité 1 million de fois la normale. Mais surtout, comme la souris capturée par Sergueï Gachak, tous ces animaux semblent en parfaite santé.
Yves Lenoir qui lève les yeux au ciel. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes avec cette capacité extraordinaire de résilience de la faune de Tchernobyl.
On est loin de la science. D'abord, première remarque, il n'y a pas d'homme dans la zone interdite. Donc les grands animaux dont le pire ennemi est l'homme, qui comme nous ne sentent pas les radiations, vont dans la zone interdite. Comme ça, ils sont tranquilles. Bon, ensuite, ce qu'on observe, ce que les naturalistes qui ont travaillé depuis des dizaines d'années ont observé, c'est qu'il y a une corrélation inverse parfaite entre niveau de radiation, taux de reproduction des animaux, densité des populations pour ce qui concerne les animaux sédentaires. Oui. C'est-à-dire, les micro-organismes du sol ne peuvent pas aller très loin, oui. La microfaune du sol ne peut pas aller très loin, les araignées, les insectes, les petits rongeurs. Celui qu'on a trouvé était très vivant, ça je veux bien le croire, mais il faut voir la proportion d'animaux vivaces dans celle de ces mulots. Gonchareva, dont j'ai parlé, a fait des mesures de terrain. Vous avez une mortalité fœtale énorme qui varie effectivement en fonction de la contamination. Et pour les oiseaux, bien sûr, on voit des oiseaux. Mais dans le film, votre passage n'en parle pas, on voit des oiseaux migrateurs qui ont le temps d'attraper un cancer sur place et on voit les tumeurs cancéreuses sur un œil d'une hirondelle.
Viron nous demande ceci, les contaminations radioactives ont été importantes sur les végétaux au métabolisme lent, surtout les lichens, les champignons. Pourquoi a-t-on autorisé leur consommation ?
Elle n'est pas autorisée sans contrôle, normalement. Hein. Mmh. Il y a une valeur limite à ne pas dépasser, et à ce moment-là, on peut le commercialiser. Le problème, c'est que les gens vont dans la forêt pour cueillir les champignons, pour faire les réserves pour l'hiver, toutes les zones dangereuses ne sont pas répertoriées. J'ai même appris que maintenant, 20 ans après ou 30 ans après, plus personne ne respecte les panneaux qui indiquent que c'est dangereux. Et la cueillette des champignons, des baies, la chasse, la pêche dans les étangs, les lacs, reste une activité assez fréquente, même trop fréquente, et qui est une source de contamination considérable qui oblige Belrad à poursuivre ses activités. Parce que on trouve toujours des enfants qui sont contaminés et il faut cesser que ça continue. Quoi.
Anita Momoni.
Alors, moi, je voudrais insister sur les carences de la santé publique dans cette affaire, que ce soit d'ailleurs autour de Tchernobyl ou même en France, avec une vraie résistance des autorités sanitaires à faire un recensement des pathologies, ou même à s'inquiéter de phénomènes jeux dans le livre traduit donc par cette association indépendante. Il est dit que l'incidence du cancer de la thyroïde dans la région Champagne-Ardenne est absolument parallèle à l'augmentation observée en Biélorussie.
Ouais.
Et pour un cas de cancer de la thyroïde, dans les territoires contaminés, on a un dysfonctionnement du système endocrinien chez 1000 personnes pour un cas de cancer de la thyroïde.
Vous répondez d'une certaine manière à la question de Françoise qui demande s'il est possible de relier les événements de Tchernobyl au problème de thyroïde chez des personnes nées quelques années après dans l'Est de la France en l'absence de pistes familiales. Les raisons de ces problèmes demeurent parfois très floues, écrit-elle.
Alors je dirais que le flou est organisé. Hein. Ouais. Il est politiquement produit. C'est-à-dire que ce qui aurait été logique depuis le début d'ailleurs de l'industrie nucléaire, c'est de mettre en place de véritables recensements, des registres, des maladies, de telle sorte qu'on puisse vraiment avoir une évaluation. Et en l'absence d'évaluation, au lieu de dire la radioactivité est dangereuse et ce qu'on observe est très probablement en rapport avec, on trouve le raisonnement inverse, c'est-à-dire « ah ben on ne sait pas ».
Je voudrais faire une remarque à ce sujet-là. En 1974, dans un cadre officiel, j'ai eu à discuter avec le professeur Pellerin. C'était officiel, il ne savait pas que j'avais quelques préventions contre le programme qui venait d'être décidé. Et je lui ai dit, écoutez, il y a 30 000 personnes environ en France qui travaillent depuis maintenant 10 ou 20 ans dans les installations où ils sont exposés aux radiations. Vous devez avoir des statistiques concernant leur morbidité. Et il m'a regardé avec un air assez effaré en se demandant à quel luberlu il avait affaire. Et il m'a dit, mais pourquoi chercher? On ne trouvera rien. Donc ils y croyaient en tous les cas à l'époque.
Écoutez la voix de Valéry Giscard d'Estaing le 30 mai 86.
Je crois que d'abord il faut rassurer les Français. Le nuage dont vous avez parlé tout à l'heure est un nuage dont la radioactivité, de toute façon, ne comporte pas de danger pour la population. Il est un taux de radioactivité qui est faible par rapport à celui qui aurait des conséquences sur la santé de la population.
Voilà, c'était le 30 avril 86, Valéry Giscard d'Estaing. C'est pas le seul hein, du tout, hein. On a pris cet extrait-là, mais ils ont été très nombreux à tenir exactement le même discours avec le fameux nuage qui s'était arrêté à la frontière et qui est redevenu depuis extrêmement célèbre. Virginia nous dit ceci, les radiations induisent des mutations génétiques. Est-ce qu'on peut établir une relation de cause à effet pour des enfants nés en Europe avec des malformations génétiques après la catastrophe de Tchernobyl? Est-ce que l'impact sur le nombre de naissances de bébés avec malformations génétiques a été suivi depuis 86 en Europe?
Ne confondons pas les malformations d'origine induites in utero, qui ne sont pas génétiques, des mutations génétiques. Alors, les mutations génétiques et les radiations, c'est une vieille histoire. On a démontré qu'il y avait proportionnalité entre dose et taux de mutation ajouté aux mutations naturelles en 1927. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui est parfaitement connu à tous les niveaux de débit de dose, d'intensité. Ouais. C'est Herman Müller, le généticien américain qui a montré cela. Il a été prix Nobel en 46 pour cette découverte. Ce qui a beaucoup augmenté après Tchernobyl, et c'est pareil après Hiroshima, Nagasaki, c'est le taux de malformation qui ne sont pas d'origine génétique. Mais on a des indications précises sur le fait qu'il y a des mutations, c'est la trisomie 21. Mmh. Après Tchernobyl, vous avez une véritable explosion de l'ordre de multiplier par 20. Ce sont, alors là, c'est lié au moment de la conception.
Annie Thébaumoni.
Oui, moi, là encore, on est dans une situation où des choses sont connues dès les années 20, par rapport à cette question des mutations. Dès les années 50, sur ce qui se passe lorsque des femmes sont irradiées pendant la grossesse, c'est les travaux de Alice Stewart qui montrent très bien que à ce moment-là, on a trois types de phénomènes. La mort subite du nourrisson, des fausses couches, la mort subite du nourrisson, des malformations et la leucémie. Et les travaux d'Alice Stewart ont été disqualifiés par ceux qui travaillaient, et notamment Richard Doll, qui est un grand épidémiologiste qui a en même temps été payé par toutes les grandes industries nucléaires, chimiques et l'amiante. Et les travaux d'Alice Stewart ont été disqualifiés. Il a fallu 20 ans même pour faire admettre que les radiographies étaient extrêmement dangereuses pour les femmes enceintes.
Allez, encore quelques questions, des réponses courtes, s'il vous plaît. Jacques nous dit la vallée du Rhône possède la plus forte concentration en centrales nucléaires. À part la distribution de pastilles d'iode, qu'est-il prévu en cas d'accident? Que se passerait-il, Annie Thébaumoni?
Alors, en dehors des pastilles d'iode, les plans officiels sont très confidentiels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas connus. Pour avoir interviewé un travailleur qui avait été pompier dans une des communes d'implantation d'une centrale nucléaire, je lui ai demandé quelle était la préparation des pompiers. Et il m'a dit, il n'y en a aucune.
Bien. Bon, ben ça le mérite d'être clair. Donc les pastilles d'iode, point barre apparemment. Charles nous dit, la contamination radioactive est-elle en partie responsable du vieillissement chez le vivant, Yves Lenoir?
Oui, justement, c'est une des séquelles assez communes. L'espérance de vie est réduite pour différentes raisons. Et ça n'est pas reconnu comme étant lié aux radiations par les instances officielles.
Ouais, Roland demande, est-ce qu'il y a des plantes alimentaires qui concentrent particulièrement les radiations, justement, dans
oui,
le sol?
Oui, vous avez les champignons, les baies, essentiellement. Et puis vous avez à l'inverse des plantes qui n'en absorbent quasiment pas et dont on fait et qu'on montre comme étant la solution pour en sortir. Alors si vous voulez vous nourrir de cornichons et de concombres, eh bien, c'est la solution.
Bon, c'est pas très joyeux, mais enfin bon, pourquoi pas. La conclusion, la morale de cette histoire, Yves Lenoir, c'est quoi? C'est que finalement, la catastrophe atomique, on sait quand elle a commencé, c'est très précis, mais évidemment, l'histoire se poursuit et c'est loin d'être terminée. Oui, à l'inverse de ce qu'on voudrait nous faire croire.
Hein. Oui, c'est-à-dire que l'avenir...
Parce qu'officiellement, l'histoire est close.
Depuis 2006, le bilan définitif a été publié.
Pour Tchernobyl. Ouais.
Voilà. Et au Japon, vous allez voir qu'ils vont le tirer encore plus vite. Ce qui est certain, c'est que l'avenir est conditionné par le passé. Et c'est tout à fait nouveau dans l'histoire d'avoir l'avenir qui soit entièrement conditionné par le passé pour les populations qui vivent dans les zones contaminées.
Annie Thébaumoni, la conclusion?
L'histoire du nucléaire dans son ensemble est une histoire de catastrophe sanitaire. Pour la France, ce sont les travailleurs invisibles, et pas seulement pour la France, puisque l'organisation du travail est le même. Et donc, Tchernobyl nous apprend ce qu'est une catastrophe sanitaire. Une catastrophe nucléaire, à partir du moment où elle a commencé, on peut dire qu'elle n'est jamais finie.
Et sans pouvoir tirer de bilan définitif encore aujourd'hui. En attendant, on peut lire La Comédie Atomique, cette audition de la découverte. Donc cette histoire occultée des dangers des radiations que vous signez Yves Lenoir. Et puis Annie Thébaumoni, La Science a servi toujours aux éditions de la découverte.
Tous les samedis à partir de 11h.
Sur les épaules de Darwin.
Sur les épaules de Darwin.
Sur les épaules des géants.
Jean-Claude Amezen.
Au commencement et la relation. Nous entrons en résonance avec les autres. Nous échangeons, nous partageons, nous écoutons.
Sur les épaules de Darwin.
Voir dans l'invisible.
À suivre samedi sur France Inter.
À travers l'espace.
À partir de 11h.
Et à travers le temps.
Marie, sociétaire massif.
Moi, pour vraiment profiter de mon week-end, j'ai besoin de savoir que quelqu'un veille sur ma maison. Quelqu'un de fiable, dévoué. Tout moi, quoi. Grâce au service Massif Protect, à partir de 12 euros par mois, j'ai le pouvoir de protéger ma maison depuis mon smartphone. Et ça, c'est le prix de la sérénité pour moi. Massif, essentiel pour moi.
Rendez-vous dans nos points d'accueil ou sur massif.fr. Tarif 2016, matériel uniquement disponible à la vente en formule essentielle. Massif Protect est un service réalisé par Intermutuel Téléassistance, voir conditions sur massif.fr.
Le système d'assaut dans Affaires Sensibles avec Fabrice Drouel, juste après les informations. Merci à Guillaume Roux qui était à la technique. Passez une bonne journée à l'écoute d'Inter, il est 15h.